Épître de Paul aux Galates, chapitre 5. Nous lirons les 15 premiers versets. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Dans le début de notre chapitre, j'aime mieux faire une toute petite rectification à la traduction. Il n'y paraît presque pas, mais pourtant, ça la clarifie bien. Au lieu de dire « c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis », alors que dans le grec, il y a répétition du verbe qui va avec le substantif « liberté », par conséquent, n'est-ce pas, nous disons ceci, c'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Vous voyez, comme c'est bien plus simple. Pas la peine de mettre affranchi, n'est-ce pas, changer de mot, ça ne sert à rien. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Ceci est la traduction œcuménique. Et qui, en général, a de très bonnes choses. On pourrait s'imaginer que cette traduction est œcuménique. Je parle de celle du Nouveau Testament. Celle de l'Ancien Testament, je ne l'ai pas. Je n'ai pas acheté encore toute la Bible. Mais enfin, dans le Nouveau Testament, je dois dire qu'il y a des choses bonnes. Et la traduction œcuménique n'a pas toujours... Si, en un point ou deux, peut-être, mais en général, elle n'a pas cédé à l'inflexion que le catholicisme a imposé à certains passages de l'Écriture. Là, ici, par exemple, il y en a une inflexion dans les traductions catholiques, et la traduction œcuménique n'a pas cédé, elle est revenue au texte exact. Elle a été préparée par des hellénistes, des linguistes de valeur. Ben, c'est pour ça que elle est intéressante. Enfin, je ne fais pas l'apologie de la traduction œcuménique, mais je dis que je m'en sers, vous voyez, de temps à autre, j'y trouve de bonnes choses. La croix accomplit plusieurs choses en une seule fois. Elle a obtenu le pardon des péchés de tout pécheur repentant qui croit en Jésus-Christ. Elle lui a acquis le pardon des péchés, la grâce du pardon, disponible pour tout homme de foi. Elle le justifie et le libère de sa condamnation, deuxième point. Elle lui fait quitter l'empire de la mort pour celui de la vie, troisième point. Elle le fait paraître à la lumière, affranchi de la tyrannie du péché, quatrième point. Ben, tout cela s'est fait, est venu par la crucifixion de Jésus-Christ, et tout cela est porté dans les conséquences éternelles de la crucifixion, conséquences que l'on peut saisir, recueillir en n'importe quel moment. Dieu est hors du temps quand il a fait intervenir un événement comme celui-là, la crucifixion de son Fils, il en a tiré tout cela, et tout cela est disponible maintenant. J'ai été crucifié avec Jésus, ça veut dire, j'ai obtenu le pardon des péchés, j'ai été justifié, libéré de la condamnation, j'ai quitté l'empire de la mort pour celui de la vie, je suis affranchi de la tyrannie du péché, et je vis dans un esprit nouveau, je sers dans un esprit nouveau, je vis une vie nouvelle, qui est la vie de l'amour. Tout cela vient de la croix et bien entendu de la vie du Seigneur ressuscité. Mais la croix, voyez-vous, a fait plusieurs choses. C'est pourquoi Paul nous dit ici que c'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Il faut comprendre ces choses. Affranchi de la tyrannie du péché, eh bien c'est une chose que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même annoncé dans Jean 8, verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dirai, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Alors, cette liberté, affranchissement du péché, qui provient, qui découle du mystère de la croix, de l'œuvre accomplie à la croix, cet affranchissement du péché, cette libération confère aux chrétiens introduit dans la vie nouvelle une liberté non seulement à l'égard du joug du péché, mais une liberté à l'égard de la loi. À l'égard de la loi. Non pas, nous sera-t-il dit, pour en faire un prétexte de vivre selon la chair. Bon, ça, nous y reviendrons. Vous savez, dans ces choses-là, il faut progresser pas à pas. Il ne faut pas vouloir construire sa doctrine soi-même. Il faut rester collé au texte biblique, attaché à l'expression biblique de ces mystères, parce que celui qui veut faire de la doctrine, il a vite fait, vous savez, d'aller se promener là, tout à fait en dehors de la réalité de la doctrine. C'est très difficile, n'est-ce pas? C'est une des choses les plus difficiles qu'il y ait, n'est-ce pas? La position du chrétien à l'égard de la loi ancienne, de la loi de Moïse, qui pourtant n'est pas un document caduque, qui pourtant n'est pas à jeter aux orties, il n'y a pas des pages à déchirer de l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu et ça reste la parole de Dieu. Et vous n'êtes plus sous la loi. Et cependant, vous ne faites pas ce que la loi interdisait de faire. Oh. Voilà tout un mystère. Pour vraiment approfondir, j'aurais aimé pouvoir approfondir davantage ce grand problème sur lequel les chrétiens, en général, sont évidemment mal informés, et ils n'ont pas, à vrai dire, de compréhension, et je ne leur fais pas grief, car c'est très difficile. Il faut y avoir vraiment réfléchi, il faut y mettre tout son cœur, toute sa foi, il faut y revenir souvent, il faut lire les textes, il faut demander au Seigneur, à l'Esprit de nous éclairer. Il y a certainement là une grosse difficulté. Dans ces conditions, dans les conditions de la croix et de cette libération qui provient de la croix, à quoi servirait encore d'être placé sous le régime de la loi de Moïse? Voilà, n'est-ce pas? À quoi cela servirait-il? C'est vers cette pensée que l'apôtre Paul s'oriente. Attention, toutefois, ne méprisons pas cette précieuse liberté qui vient d'une libération. Je parle souvent de liberté qui vient d'une libération. Ne méprisons pas cette précieuse liberté, c'est-à-dire ne la méconnaissons pas. N'allons pas, n'est-ce pas, nous en défaire, la brader, la laisser de côté pour en nous laissant séduire par une position à nouveau légaliste qui est quelquefois jugée comme une position de repos. En réalité, c'est une position d'esclavage. Mais il y a des gens, n'est-ce pas, qui préfèrent qu'on leur dise « fais ceci, fais cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça », n'est-ce pas? Alors, ne méprisons pas cette liberté, jouissons-en dans toute son étendue. Les docteurs judaïsants proclamait l'obligation de la circoncision aux païens qui se convertissaient à Jésus-Christ. Et ils avaient évidemment toute facilité pour cela, puisqu'ils pouvaient dire déjà, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été circoncis. Ah. Et notez que c'est un argument évidemment très troublant, parce que nous l'employons. Et nous disons, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau par la main de Jean-Baptiste. Alors, s'il a été lui baptisé, s'il est lui qui est en tout le premier, s'il est passé par les eaux du baptême, nous y passons aussi. Alors, voyez comme c'est facile de dire, ben, il a été circoncis, alors voyons, faites de même, faites comme lui, imitez-le, suivez-le. Voyez comme il y a là un argument. Et cependant, l'argument est mauvais. Parce que cela, Jésus ne l'a pas fait dans son ministère. Il l'a fait pour une préparation à son ministère, étant né d'une femme, né sous la loi, il a respecté cela pour arriver au temps de son ministère. Mais, n'est-ce pas, tous ceux qui troublent et qui dérangent la vraie doctrine, la saine doctrine de Christ, ont des arguments spécieux qui, souvent, ne sont des pièges. Et ces docteurs judaïsants affirmaient que la loi avait conservé son autorité et, partant, son actualité. Il n'y avait aucune raison de ne pas la regarder comme chose actuelle. Nous, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous disons que la foi a été annoncée aux saints une fois pour toutes, qu'il n'y a rien à changer à ce qui est intervenu depuis la Pentecôte, rien du tout, nous continuons jusqu'à ce que le Seigneur revienne, et nous avons raison, nous sommes dans ce qu'on appelle quelquefois une dispensation, bien que le terme soit plus ou moins discutable, dans une dispensation, mais nous n'avons rien à changer dans tout cela. Et eux le disaient aussi, on n'a rien à changer, la loi a été donnée à Moïse, et on lisait même dans l'Ancien Testament, que cette loi était perpétuelle. Voyez-vous, comme il y avait, n'est-ce pas, des difficultés. Il faut comprendre les Galates, tout au début du christianisme, et il y en a bien qui en courent, il y en a bien qui, de nos jours même, se laissent encore reprendre par l'argumentation légaliste. La foi nouvelle, la foi en Jésus-Christ, selon ces docteurs, devait donc être associé aux prescriptions de la loi de Moïse. Et alors, la foi en Jésus-Christ toute seule n'était pas suffisante à leur gré pour sauver le pécheur repentant, le païen. Le juif, lui, pouvait rester sous sa loi et prendre Jésus-Christ, puisque ces docteurs judaïsants étaient chrétiens, se voulaient chrétiens. Mais, n'est-ce pas, les païens, eux, ne connaissaient pas la loi, n'avaient jamais connu la loi. Or, on voulait les introduire tout de suite dans la loi pour qu'ils soient à l'égal des juifs et que, à leur foi en Jésus-Christ, ils associent les observances légalistes. Alors, donc, la foi dans ces conditions-là ne sauvait pas toute seule. Elle ne sauvait le pécheur que s'il se plaçait, le pécheur païen, s'il se plaçait sous la loi. Il fallait donc, n'est-ce pas, adjoindre la loi à la foi et à la grâce. Le salut par grâce, sans les œuvres de la loi, Paul soutient la thèse dans les Romains particulièrement, ce salut par grâce sans les œuvres de la loi était alors abandonné. C'était une chose grave. Parce que joindre à la grâce obtenue en Jésus-Christ quelque chose d'autre, que ce soit les observances légales ou autre chose, joindre quelque chose d'autre, c'est renier la grâce. C'est s'en trouver déchu, nous dit ici catégoriquement l'apôtre Paul. C'est vraiment, n'est-ce pas, détruire l'effet de la grâce, le bienfait de la grâce. C'est s'en trouver Jésus, déchu. Et dans Romains 11, verset 6, nous lisons. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Sous-entendu que vous êtes sauvés. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. En effet, n'est-ce pas, si elle exige encore l'observation des prescriptions légales, n'est-ce pas, eh bien, la grâce, alors, c'est plus une grâce. Autrement dit, si je, par exemple, je fais don de quelque chose à quelqu'un, je dis, voilà, je vous donne cette chose. Oui, mais je vous en demande quand même, n'est-ce pas, un prix, n'est-ce pas. Je vous le donne, mais je vous demande quand même de me payer ça. Ou bien alors, je vous donne cette chose, vous la donne, mais vous serez obligé de venir me faire un travail chez moi, un travail... Alors, c'est plus un don. Si je donne quelque chose et qu'en même temps je demande, c'est plus un don. Il en est de même de la grâce, n'est-ce pas. Si c'est par grâce, c'est plus par les œuvres. Les œuvres, n'est-ce pas, ce n'est pas la gratuité. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. L'œuvre et la grâce, n'est-ce pas, s'excluent mutuellement. Comme, par exemple, le don exclut tout paiement. S'il y a un paiement, c'est plus un don. Et si c'est un don, il n'y a pas de paiement. L'un et l'autre ne peuvent pas aller ensemble. Voyez, voilà ce qu'il faut bien comprendre. Se faire circoncire, c'était se placer sous la loi et accepter toutes les obligations pour les païens. S'ils étaient obligés de se faire circoncire, alors ils en accepteraient toutes les obligations. Timothée, lui, l'apôtre Paul, le laissera se faire circoncire, mais il était de mère juive, c'est ce qui créait un problème tout à fait spécial, de père grec et de mère juive, n'est-ce pas? Alors là, c'était un cas spécial dont on ne peut pas s'emparer, n'est-ce pas, pour essayer de modérer peut-être ici l'accent catégorique de Paul. Or, l'homme converti à Jésus-Christ, moyennant la foi et par la grâce de Dieu, ne peut plus être mis dans l'obligation de pratiquer la loi. Non. Nous allons le démontrer. N'est-ce pas? L'homme, je répète, l'homme converti à Jésus-Christ, moyennant la foi, le vrai chrétien, le chrétien qui a reçu la grâce de Dieu, n'est-ce pas, avec tout ce que nous avons dit en commençant, eh bien, ce chrétien-là ne peut plus être mis dans l'obligation de pratiquer la loi, non. N'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, voyons dans Galates 3, et au verset 10 et 12, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Alors un chrétien ne peut pas se placer sous la malédiction. « Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met pas en pratique. » Alors le chrétien, s'il fait appel à ses propres forces, à lui-même, il va se trouver dans la même condition que les juifs, n'est-ce pas, païens, entrés dans l'église par le baptême et obligé de suivre les prescriptions légales, alors il va se trouver comme les juifs, il ne pourra pas apporter une observation parfaite, n'est-ce pas, parce qu'il comptera sur lui-même, parce qu'il faudra qu'il le fasse par lui-même, il aura la loi qui lui dira ne fais pas ceci, fais cela, etc. Il ne pourra pas. Par conséquent, il se trouvera sous la malédiction. Quelqu'un qui est sous la bénédiction d'Abraham va se remettre sous la malédiction. Voilà un argument, n'est-ce pas? Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Voilà un deuxième argument encore, n'est-ce pas? Il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Ensuite, nous avons dans le même genre d'argument, nous avons au chapitre 7 de Jean, quelque chose qui appuie l'argumentation, chapitre 7 de Jean, qui appuie l'argumentation que nous venons d'énoncer, chapitre 7 et verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus même dit ça, n'est-ce pas, à ses contradicteurs juifs. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Oui. Eh bien, pourtant, nul de vous n'observe la loi. Nul. Personne. Hein? Vous voyez, ça corrobore ce que nous venons de dire. Par conséquent, le chrétien retomberait dans cette situation, se replacerait lui-même dans cette situation, et il ne ferait pas mieux. Et alors, il n'observerait pas la loi, il se remettrait sous le coup de la malédiction. Et puis, alors, en plus de ça, ce qui nous fournit la belle argumentation, c'est l'Épître aux Hébreux, dont nous lirons, parce que cela est important maintenant, je lirai une partie du chapitre 7 des Hébreux. Une partie du chapitre 7, c'est-à-dire à partir du verset 11. Alors, prenons bien garde à ce que nous lisons là. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, et l'on ne peut pas disjoindre comme le font certains, par exemple les adventistes, n'est-ce pas, la loi morale de la loi cérémonielle. C'est pas vrai, car c'est sur ce sacerdoce, et le sacerdoce lévitique c'est essentiellement tout ce qui est cérémoniel, les sacrifices d'animaux, n'est-ce pas, que repose la loi donnée au peuple. En effet, pour les péchés, il fallait un sacrifice d'expiation, il fallait des sacrifices d'action de grâce, il fallait toutes ces choses, n'est-ce pas? Tout est lié dans la loi de Moïse. Alors, je reprends. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? N'est-ce pas non plus dans la ligne d'Aaron et des fonctions dévolues à Aaron pour la souveraine sacrificature de la loi, n'est-ce pas? Mais une nouvelle souveraine sacrificature qui ne découle plus d'Aaron mais qui découle de Melchisédek. Il y a une nouvelle classe, un nouvel ordre qui vient de Melchisédek. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Du moment qu'on change le sacerdoce, qui est à la base de tout système légal, hein, eh bien, c'est qu'on change de loi. On change de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'est-ce pas, appartient à la tribu de Judas, il va le dire d'ailleurs. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Le sacerdoce sortait entièrement de Lévi. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, à la ressemblance, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, la loi de Moïse est qualifiée là ainsi, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi, attention, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Nous revenons aux arguments précédents, n'est-ce pas? Nul n'a pu observer la loi. Alors, à cause de son impuissance et de son inutilité quant à la faire paraître le pécheur au salut de Dieu. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, la meilleure espérance fondée sur la grâce. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, c'est vrai, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Et le serment, il en a été question dans le chapitre précédent des Hébreux, chapitre 6, le serment a été apporté par Melchisédek en personne devant Abraham, qui a mangé le pain et bu le vin avec lui. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il y a eu changement de loi, il y a eu changement d'alliance. Une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Par ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Vous voyez donc, n'est-ce pas, qu'il n'y a aucune possibilité, lorsque la position d'un homme est celle du chrétien sauvé par grâce, de revenir en même temps, n'est-ce pas, sans prétendre vouloir abandonner le bénéfice de la grâce, mais prétendre aussi se replacer sous la loi, sous l'observance de la loi. C'est de la foi, nous dit l'apôtre, que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. L'espérance de la justice pour quelqu'un qui est, par exemple, encore inconverti du dehors, n'est-ce pas, il espère la justice en venant à Jésus-Christ, parce qu'on l'a lui fait espérer par le moyen de l'Évangile, et puis en plus, ceux qui sont devenus chrétiens espèrent la justice complète, la manifestation complète de la rédemption, n'est-ce pas? Voilà ce que cela veut dire. L'espérance de la justice et par conséquent de l'entière rédemption vient de l'exercice de la foi uniquement. Elle est une œuvre de l'Esprit de Dieu dans le chrétien et elle exclut alors la nécessité d'une légalité que je vais qualifier d'extérieure, une légalité extérieure qui est charnelle. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Hébreux, qui est charnelle et par conséquent qui est morte. Et tout cela est dit sans qu'il y ait critique de la loi. N'est-ce pas? Ce qu'il y a, c'est que la loi n'est pas un instrument de salut. La loi n'a jamais été donnée pour être un instrument de salut, pour garder le peuple jusqu'à Christ. Et la circoncision et l'incirconcision n'ont pas de valeur en Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est pas voilà ce que Paul veut dire, il a le maniement, vous savez, de la langue, n'est-ce pas, qui prend souvent des raccourcis ou des formes qui peuvent un peu nous déconcerter, il faut faire très attention. Il veut dire ceci, être ou ne pas être circoncis n'importe pas, n'est-ce pas, ça n'importe pas, être ou ne pas être, circoncis n'importe pas. Les Juifs l'étaient, avant de connaître Christ. Les païens ne le sont pas. Eh bien, ils sont à égalité les uns les autres lorsqu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ce qui importe, ce qui est efficace, nous dit l'apôtre, c'est une foi agissante par la charité, c'est-à-dire l'amour, n'est-ce pas ? Une foi agapée, qui est efficace par une foi capable d'agir par la force de l'amour. Or, l'amour doit toujours se manifester là où est la foi. Nous savons que si la foi ne se manifeste pas par l'amour, eh bien la foi va rester sans œuvre valable, sans se manifester, et par conséquent, elle est comme une racine dans la terre, n'est-ce pas, qui ne donnerait absolument rien au-dessus de la surface de la terre, aucune plante visible. Tandis que, n'est-ce pas, la foi qui est agissante par l'amour, par la force de l'amour, non pas par l'amour sentimental de conception humaine, n'est-ce pas, attention, je précise toujours, mais par la force de l'amour divin. Eh bien, cet amour qui se met à l'œuvre comme manifestation de la foi, c'est toute la vie chrétienne, ça. Voyez, dans une simple formule, le Seigneur embrasse toute la vie chrétienne, la foi qui est agissante par l'amour. La foi, je l'ai déjà dit, je ne vais pas m'arrêter trop là-dessus, n'est-ce pas? La foi, c'est la racine, ce sont les racines. C'est caché dans la terre, on ne les voit pas, les racines. C'est caché dans le cœur, la foi, ça ne se voit pas. Ça ne peut pas se voir, c'est caché dans l'être intérieur. Et puis, quand il y a les racines, n'est-ce pas, et que la plante n'est pas cisaillée, eh bien, il y a dessus quelque chose, mettons un arbre, n'est-ce pas? Il y a un arbre, parce qu'il y a des racines dedans, et cet arbre est beau, il a un ramage, il porte des fruits, n'est-ce pas? J'en reviens toujours à l'arbre du psaume premier. L'homme qui est comparé à cet arbre, et ses racines plongent jusqu'au torrent, jusqu'à cette eau vive, n'est-ce pas? Alors, il a un feuillage merveilleux, il donne ses fruits en sa saison. Voilà la foi, n'est-ce pas, qui se montre agissante par l'amour, et alors l'amour, n'est-ce pas, c'est le fruit. Le fruit, n'est-ce pas, il y a un fruit savoureux, un fruit véritable, ça c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour et ce sont en même temps les œuvres de la foi, les œuvres préparées d'avance par Dieu. La foi est donc la racine, les œuvres et l'amour sont la partie aérienne de l'arbre et sont son fruit. La foi qui est agissante par l'amour, n'est-ce pas, nous lisons bien, et la traduction est très correcte ici, mais dans une traduction catholique, non pas dans la traduction œcuménique, mais dans une traduction catholique, on lit généralement la foi, écoutez bien, la foi qui est opérée par la charité. Oh, subtilité de la malice humaine! Et c'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est pas correct comme traduction. La foi qui est opérée par la charité. C'est-à-dire que, en somme, la doctrine catholique veut que la foi soit le fruit et que la charité, les œuvres, soient la racine. On met l'arbre tête en bas. On met le feuillage et tout dans la terre, n'est-ce pas? On met la racine en l'air. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, on veut que l'homme produise des œuvres, hein, des œuvres charitables, des œuvres de charité, et l'on dit alors, il a la foi, n'est-ce pas? Et ça, c'est sa foi. Et il est sauvé par la foi, mais la foi étant le fruit de ses mérites et de ses œuvres. La foi ne pouvant être que le fruit des œuvres, alors que c'est le contraire, les œuvres sont le fruit de la foi intérieure. Ah, c'est très subtil tout ça, n'est-ce pas? Mais on peut dire que tout le système romain, et le système romain, entre autres grandes obscurités, le système romain a précisément joint à la grâce de Dieu un ensemble de conceptions légalistes et rituelles qui, comme Paul le dit dans cet épître, produit la déchéance de la grâce, et c'est pourquoi, dans le système romain, il y a déchéance de la grâce. Tout ce système, bien sûr, de conception légaliste et rituelle, c'est même devenu un tel excès. On se demande comment les gens ne voient pas clair. Il faut vraiment que l'homme vive dans le mensonge, l'homme naturel vive dans le mensonge et s'y complaise. Quand on voit encore aujourd'hui, à propos de la mort du pape Paul VI, n'est-ce pas, sur la couverture des revues, une photographie du pape en vêtements rutilants, des gants blancs, des grands anneaux, des gros anneaux, des grosses pierres, et alors il y a de la dorure, il y a du blanc, il y a une mitre qui s'en va à je ne sais quelle hauteur, n'est-ce pas, et tout en dorure, n'est-ce pas, et que l'on se dit, regardez bien ceci, voilà, en somme, ce qu'on donne à contempler au malheureux peuple chrétien. Tu vois ton chef, regarde ton chef ainsi, comme il est beau, n'est-ce pas? Oh, comme c'est superbe, c'est magnifique tout ça. Regarde-le, regarde ses évêques. Ils sont presque aussi bien habillés aussi, n'est-ce pas? Regarde tout ça, n'est-ce pas? Ça, c'est l'évangile. Chers amis, mais c'est ça, je traduis en raccourci, mais c'est ça. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est ton salut. Voilà, n'est-ce pas, l'abomination catholique. Et nous-mêmes aujourd'hui, et prenons bien garde de ne pas revenir nous-mêmes. Hein. Il faut que nous voyons, voyez-vous, je n'insisterai pas sur les horreurs, n'est-ce pas, et les abominations, parce que ce n'est pas autre chose que ça, catholique, si, dans ces temps derniers, n'est-ce pas, on avait vu qu'avec une facilité, une complaisance déconcertante, des évangéliques se laissent reprendre. Alors cela, n'est-ce pas, si on n'avait pas vu ça, je n'insisterais pas comme je fais maintenant. Enfin, tout de même, on est soulevé de voir ça, n'est-ce pas? Alors, nous-mêmes, aujourd'hui, prenons bien garde de ne pas revenir au légalisme et de troubler les cœurs par cela, attention, de troubler les cœurs. Tous ceux, n'est-ce pas, qui appuient sur le légalisme sans avoir réellement bien compris tout cet enseignement par cela, n'est-ce pas, tout l'enseignement de la parole de Dieu, pas sur ce changement d'alliance, sur ce changement de sacerdoce, eh bien, il trouble les cœurs. Prenons garde de ne pas être de ceux-là, nous, qui troublent les cœurs. Vous savez, parce que là, l'apôtre dit, n'est-ce pas, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. C'est grave, n'est-ce pas? Alors, ne faisons pas comme les docteurs judaïsants l'avaient fait, au contraire, aidons-nous les uns les autres à exercer la foi ardente des cœurs, foi qui fera bien mieux que les obligations légales qui n'a rien pu amener à la perfection, tandis que la foi le fera. Car par le moyen de l'amour, dont nous serons remplis par l'Esprit de Dieu, nous nous attacherons à faire toute la volonté de Dieu. Nous nous attacherons, nous chrétiens, nous devons avoir une force en nous qui nous pousse à faire toute la volonté de Dieu, et qui nous saisit, en somme, d'une volonté joyeuse, heureuse de faire toute la volonté de Dieu. Avec le discernement du bien et du mal, chose que n'avaient pas les Juifs, avec le discernement du bien et du mal, guidé par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu qui nous découvre toute la vérité. Dans le verset 9, Paul se saisit d'un proverbe, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire, n'est-ce pas, traduisons cela tout de suite en conseil pour nous. Eh bien, une légère déviation au départ, une légère inconséquence, une légère infidélité, une légère complaisance, une erreur anodine, c'est anodin, oui. Eh bien, alors là, n'est-ce pas, on n'est pas dans la crainte, on n'a pas peur de ça, c'est peu de choses. Et puis cela grossit, cela s'amplifie, n'est-ce pas, et cela nous amène à l'erreur tragique, totale, qui nous enlève du fruit de la grâce, n'est-ce pas. Verset 11. « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. » Les Juifs persécutaient les chrétiens parce qu'ils n'admettaient pas cette voie de salut pour tous, Juifs et païens, par la seule foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Si l'apôtre Paul avait prêché la croix avec l'observation de la loi, mais le scandale de la croix aurait tout de suite disparu, et la persécution eût cessé immédiatement, pour peut-être même faire place à l'adhésion de tous les Juifs. Prêcher quelqu'un crucifié, bon, ah, mais il y a ça de plus, mais nous sommes toujours dans la loi. Mais c'est ce que voulaient les pharisiens, ils ne voulaient pas rejeter Jésus d'emblée au début, on voulait même le faire roi, ça aurait été si bien, n'est-ce pas, déchirer un morceau de l'habit neuf pour accommoder le vieil habit légaliste, hein. Mais ça aurait été magnifique ça, il y avait tout de même du bon dans le Seigneur Jésus, il y avait des miracles, il y avait des choses, n'est-ce pas, qui tout de même attiraient pas mal de docteurs de la loi, mais admets le système qui est le nôtre maintenant, approuve-le toi, prêche-le même, et puis ajoute-y, oui, ce que tu apportes, c'est pas mal. Et puis ça fera un ensemble, nous sommes tous d'accord. Enfin, voilà, n'est-ce pas, pourquoi Jésus prononcera ces petites paraboles du vieil habit, on raccommode avec un morceau de l'habit neuf, ou alors des outres, le vin nouveau qu'on met dans une vieille outre. Alors, on utilise la vieille outre et puis on met le vin nouveau. On peut mettre l'évangile dans le légalisme, pourquoi pas. Mettons l'évangile là en bonne place dans ce système légaliste. Mettons ça, la vieille outre, dans le vin nouveau. Seulement, la vieille outre, elle éclate. Et puis alors, le vin nouveau est répandu. Alors, l'outre est perdue, le vin aussi, tout est perdu. Autrement dit, système de la loi de Moïse n'aboutirait à rien du tout et les gens qui s'y trouvent seraient perdus et puis les païens qu'on mettrait là-dedans, n'est-ce pas, tout serait perdu, tout, absolument tout serait perdu. Aujourd'hui, mettez autour de la croix divers moyens annexes où l'homme fait valoir ses apparents mérites, vous verrez entrer beaucoup plus de personnes dans les églises multitudinistes. Oh, aujourd'hui ça a moins de réalité qu'il y a quelques décennies, mais enfin quand même ça peut se faire, une église multitudiniste, mais tout sera perdu évidemment, l'outre vieille et le vin nouveau tout ensemble. Aujourd'hui comme toujours, le mystère de la réconciliation et de la justification, et de la réconciliation par la justification, par la foi en Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix, eh bien ce mystère heurte beaucoup d'hommes, il faut le dire, le scandale de la croix, le mystère d'un salut par la foi en un Seigneur crucifié et ressuscité seulement, sans rien d'autre. Mais il faut une repentance, une humiliation des cœurs, un rejet de tout ce qui est, appartient à l'homme naturel, au vieil homme, n'est-ce pas? Eh bien, cela, ce mystère, heurte beaucoup d'hommes en leur sentiment d'être quelque chose, d'avoir quelque chose de bon en eux, de pouvoir encore se dire qu'ils apportent tout de même un certain ensemble méritoire. Ce mystère, donc, de la justification par la foi en Jésus-Christ, heurte également la raison humaine. La raison humaine et heurte l'apparente sagesse humaine. L'homme, le vieil homme, l'homme naturel, ne veut pas se départir d'une part de son orgueil, ça l'empêche de se repentir, et puis il ne veut pas se départir non plus de ce qu'il juge être raisonnable. Il veut toujours un contact de sa raison. Tout ce qu'on lui apporte, il veut absolument, n'est-ce pas, toujours le saisir, mais en lui laissant le contact de sa raison, de la logique intérieure de ses pensées. Il ne veut pas, n'est-ce pas, détacher cela, n'est-ce pas, parce qu'il faudrait admettre tout uniquement par la foi, quelque chose d'incompréhensible. Il veut que ce soit compréhensible, n'est-ce pas? Et alors, bien entendu, ce mystère n'est pas réellement accepté chaque fois que l'homme veut s'en tenir à sa raison ou à sa sagesse. Or, donc, si l'on touche au mystère de la justification par la foi seulement, ou si on l'affaiblit, ce mystère, par exemple pour le faire mieux accepter, en pensant, n'est-ce pas, qu'on va mieux le faire accepter, ou alors on pense, n'est-ce pas, que peut-être on va faire une œuvre plus rapide, n'est-ce pas? Alors, on voile la repentance, par exemple. On voile la repentance. Si on voile la repentance, on n'en parle pas trop, on n'insiste pas, on ne la montre pas sous son véritable caractère, la repentance, qui est à la base de la justification pourtant. Hein? C'est la justification par la foi. Mais la foi nécessite le passage par la repentance. L'esprit est là pour faire peser sur l'homme précisément tout cet appel à la repentance. Eh bien, si donc on change cela, on modifie la repentance, on l'atténue, on voile son caractère, que fait-on? Mais on laisse par contre l'homme conserver sa prétention à quelques possibilités méritoires, conserver une partie de sa propre justice, même si ce n'est pas tout. Il conserve cela, n'est-ce pas? Et par conséquent, on travaille à rapprocher le christianisme de l'esprit du monde, et on détruit la vraie foi et on détruit le salut. Prêcher l'évangile par exemple, n'est-ce pas, le seul moyen de trouver dans les vicissitudes de cette époque, de trouver du calme, de trouver même un bonheur, disons, qui va être tout de même d'essence surnaturelle. On va trouver le bonheur, vous allez être joyeux, vous allez avoir des réussites, vous allez voir. On prêche ça, et non, on ne prêche que ça. Chers amis, on prêche un faux évangile. On prêche un faux évangile. Mieux vaut avoir 3 personnes dans une église qui soient réellement converties que d'en avoir 3 000 qui soit venu à cause de cette démission de la doctrine et de la prédication. Si vous ne faites pas agir, je dirais presque le couperet, parce que c'est l'homme, le vieil homme qui est sujet au couperet, le couperet de la repentance, vous n'avez rien fait de bon. Rien. Et c'est comme ça que l'on retourne au système multitudiniste, c'est-à-dire les églises de multitude, où il y a tout le monde. Il y a tout le monde, et il y a beaucoup le monde. Il peut y avoir la quantité, quoique maintenant la quantité s'évade, parce qu'elle a trouvé dans l'islam, elle a trouvé dans des positions ésotériques, peut-être encore mieux que cela, n'est-ce pas? Alors, ça s'évade. Mais enfin, on pourra peut-être faire une église de multitude. Vous savez, une société, en somme, une société tout à fait humaine, à niveau de terre, n'est-ce pas? On peut y introduire toutes sortes de jeux, de distractions, tout ce qui peut plaire à l'homme, n'est-ce pas, voyez-vous, mais on n'a pas fait agir la repentance et on n'a rien justifié du tout. Aucun de ceux qui sont devenus prétendument chrétiens par cette voie-là, par cette prédication incomplète et étronquée, falsifiée même, disons, n'est-ce pas? Ceux-là, eh bien, ne sont jamais justifiés en Jésus-Christ, ils ne sont jamais chrétiens, ils ne sont pas sauvés. Ah, chers amis, c'est clair, c'est net, n'est-ce pas? Il faut que nous sachions ces choses, parce que toujours, et dans notre temps particulièrement, on est tenté de cela, n'est-ce pas? On est tenté par cela, surtout qu'on utilise beaucoup la publicité à la place du témoignage. C'est pas le témoignage, c'est la publicité. On fait de la propagande, de la publicité. Il y en a des moyens publicitaires. Je disais récemment que l'islam, et ce n'est pas moi qui le disais, c'était un auteur, que l'islam bénéficiait de richesses extraordinaires et de moyens financiers démesurés avec l'Arabie saoudite. L'islam peut faire bien plus que nous, il fait des expositions que beaucoup de personnes goûtent. Nous ne pouvons pas faire tout ça, pouvons faire un petit peu, une pauvre petite publicité dans le fond, elle est bien malheureuse notre petite publicité, avec des petits papiers, des petits traités, n'est-ce pas, en envoyant des lettres peut-être, n'est-ce pas. Mais ce n'est pas ça, chers amis, il s'agit d'une prédication de la croix, il s'agit de prêcher la repentance, c'est bien ce que dit le Seigneur, prêcher la repentance à toute la terre, et le salut par la foi en Jésus-Christ, là vous obtiendrez vraiment, après une réelle repentance, une grâce qui va vous libérer et qui va vous établir dans une vie nouvelle, et cette vie sera heureuse, non pas considérée par les vues de la terre, mais elle sera surnaturellement heureuse, même si elle doit traverser la souffrance. Voilà ce que nous dit l'Évangile et ce à quoi nous devons nous attacher. Amen.